de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de pierres et de notes. Opéra en trois actes créé à l'Académie royale de musique d'après Amadis de Philippe Quesnot en 1684. La tragédie lyrique, après Rameau, n'est pas morte. Au contraire, force est de constater la profusion des créations de ce genre dans le dernier quart du siècle. Quand on les baptise tragédie, tragédie en musique, tragédie lyrique ou tragédie d'opéra, les grands ouvrages sérieux forment même l'essentiel du répertoire de l'Académie royale de musique jusqu'en 1789. Si dans les années 1770, les créations voisines avec des remises au théâtre d'ouvrages anciens, rafraîchissements sensés, adaptés des ouvrages du règne de Louis XIV au goût contemporain et au progrès des arts, en en étoffant l'harmonie ou l'instrumentation. 15 ans plus tard, cette survie de la tragédie lyrique prend un tour nouveau, c'est-à-dire une véritable résurrection qu'on assiste alors. Pas moins d'une trentaine d'ouvrages sont créés, coup sur coup, de 1676 à 1789, témoignant d'une vitalité que la scène lyrique française n'avait jusqu'alors jamais connue. L'Amadis de Gaulle de Johann Christian Bach doit donc se comprendre dans cette perspective plus large, celle de l'effervescence du genre sérieux sur la scène de l'Académie royale de musique dans les dernières décennies de l'Ancien Régime. La volonté de renouer avec le grand goût, pour être plus précis, le grand goût français du règne du roi Soleil, induisait la référence à une figure tutélaire emblématique du grand génie national. Ce génie ne fut finalement pas celui qu'on aurait attendu à la personnalité de Jean-Philippe Lully, que l'on révélait encore, mais à la manière essentielle virtuelle, se contenant dans prononcer le nom sans plus en jouer la musique. On substitua celle de son poète, Philippe Quesnot, tel fut le héros de la nation française en matière d'opéra à la veille de la Révolution. Il vola la gloire à Lully. L'Académie royale de musique trouvait ainsi en Quesnot une espèce de garde-fou contre l'envahissement.
Thank you.
Contrairement aux premiers opéras de Lully, Roland ne s'inspire pas de la mythologie gréco-romaine, mais des romans de chevalerie. Lully et Quinon ont auparavant déjà expérimenté la formule avec Amadis en 1684 et la reprennent plus tard dans l'Armide en 1686. L'argument des draconades contre les protestants est celle de la révocation de l'édit de Nantes. Critiqué pour n'avoir pas participé à la défense de la chrétienté contre la menace turque, en 1683, Louis se présente par cette réforme en champion de la religion catholique et de l'unité du royaume. Bossuet le qualifie de nouveau Charlemagne dans un sermon prêché à peu près à la même époque que la création de l'opéra. La redécouverte par le preux Roland de sa mission sacrée est donc un sujet idéal pour l'époque. Le choix d'un héros français, comme le prologue le rappelle patriotiquement, du célèbre Roland, renouvelant l'histoire, la France lui donna le jour, flattait également l'orgueil national. En effet, si l'épisode de la folie de Roland est dû à l'Arioste, le personnage du paladin, est lui aussi apparu pour la première fois dans la chanson de Roland, une des premières œuvres épiques de la littérature française. Nous venons dans l'émission de Pierre et de Notes de découvrir l'ouverture d'Amadis de Gaulle de Jean Chrétien Barre, interprétée par la Bayerische Kammerphilharmonie. À bientôt dans l'émission de Pierres et de Notes.
De Pierres et de Notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.